Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain le sportif.
Il n'y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best against the best tous les jours.
Gagner beaucoup de trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Le terrain le sportif. Terrain. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à l'émission Le terrain sportif tous les lundis, 10h30 midi sur les ondes de CSM, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde. Et bien entendu également en rediffusion les lundis soirs 20h, 21h30 sur les ondes de CFAC, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, dans cette merveilleuse ville de l'Estrie, bien entendu, qui est une ville, qu'on adore, et avec la ville de Sherbrooke, c'est la radio de l'Université de Sherbrooke, donc on est là pour vous. Puis également, les émissions sont disponibles en balado, en podcast, comme on dit en bon anglais, au CISM893.ca/émission/le-terrain-sportif. Vous pouvez aller fouiller un peu là-dessus. Il y a plusieurs émissions là, sportives à CSM, puis il y en a certaines qui prennent du repos durant l'été. Eh bien, pour nous, au terrain sportif, on ne prend pas de repos. Donc, Wissem Bensta est votre animateur. C'est moi, je vous souhaite la bienvenue à votre émission sportive hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses intéressantes. Bon, on le sait, on a parlé la semaine dernière. La Colombie a perdu la finale de la Copa América, puis l'Angleterre a perdu la finale de l'Euro. Donc, on a parlé de ça la semaine dernière. Il y a eu des actualités qui se sont passées avec un certain Enzo Fernandez. On va toucher à ça brièvement tantôt dans l'émission, parce qu'on sait l'intelligence et l'intelligence et l'éducation et la tolérance et le respect. Et la culture, ça ne touche pas tout le monde malheureusement, puis il y a des gens, des fois on peut se demander réellement là si leur cerveau fonctionne d'une façon juste et si le cerveau est bien régulé là, ou bien s'il y a des petites défaillances. Donc on va parler de ça tout à l'heure, un peu plus tard à l'émission. Également on va parler Vermont Lake Monsters. Ça, c'est une équipe de baseball à 1h30 environ de Montréal, à Burlington, au Vermont, aux États-Unis, dans cette belle état-là qui est vert, avec des arbres, avec des gens sympathiques. Eh bien, j'ai une petite accréditation pour aller voir cette équipe-là contre les New Britain Bees, donc les Vermont Lake Monsters. Je vais parler de mon expérience là-bas. Un match de baseball, j'en vois pas tout le temps. Mais celui-ci, je peux vous dire qu'il valait la peine, puis l'expérience était top, donc on va parler de ça tout à l'heure. On va parler également Annie Larouche, puisqu'elle va quitter l'Alliance de Montréal après cette année, puis on va parler des derniers résultats de l'Alliance. Encore une fois, les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement. Là, pour l'Alliance, ça va pas très bien. On est dans les bas-fonds de la Ligue. Et on est qualifié pour la demi-finale de la fin de semaine du Weekend Championship à Montréal. Là, ça va se passer dans quelques semaines, la fin de semaine là, du 10 août. Puis à l'heure actuelle, il va falloir que les choses changent si on veut avoir une chance de peut-être remporter un titre avant que Annie Larouche s'en aille. Puisqu'il va y avoir aussi une nouvelle équipe sportive qui va voir le jour l'année prochaine avec une nouvelle ligue sportive Coast to Coast au Canada. Et donc, Ça va donner plus d'accréditation, plus de temps, plus de soccer, parce que c'est une équipe de soccer féminine qui va voir le jour à Montréal, dans la première ligue là, professionnelle de soccer canadien féminin. Et puis j'ai bien hâte d'avoir plus de détails là-dessus. Là, probablement qu'on va chercher des petites entrevues pour faire découvrir l'équipe et le produit quand on aura plus d'informations. Et on va parler, évidemment, du CF Montréal, puisque le CF Montréal était en action du côté du Stade Saputo contre le rival, l'unique, le rival détesté par plusieurs, surtout par les ultras et certaines autres personnes qui n'aiment pas Toronto. eh bien, c'était le Toronto FC qui débarquait en ville avec les deux vedettes italiennes. J'ai nommé Lorenzo Insigne, joueur qui a gagné l'Euro 2020 avec l'Italie, et Federico Bernardeschi. Les deux étaient là, les deux sont sortis à la fin. C'était les derniers à sortir de l'autobus, on le sait, là, souvent... On peut pas dire que c'est une règle qui est valide partout, que c'est une science exacte, mais souvent les joueurs qui sortent les derniers de l'autobus, eh bien, c'est souvent les meilleurs joueurs, les plus talentueux, les plus populaires, les vedettes. C'est comme un peu comme ça, les joueurs talentueux, on dirait qu'ils veulent leur place à la fin du bus. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont descendus à la fin. Puis, je veux mentionner quelque chose, là, parce que beaucoup de gens, des fois, pensent que les joueurs d'aujourd'hui, c'est pas comme avant, puis ils sont moins connectés avec les gens, puis blablabla, blablabla. Ça peut être vrai en partie, que les joueurs sont moins connectés avec les gens, mais il faut se rappeler de quelque chose de très important. À l'époque de Guy Lafleur, Maurice Richard, Patrick Roy, tout ça, là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que les joueurs t'apprenaient ce qu'ils faisaient en lisant le journal, puis des fois en regardant les émissions télévisées. Aujourd'hui, tu peux savoir ce qu'un joueur fait chaque jour avec les réseaux sociaux. Donc, les joueurs, en fait, ont beaucoup moins de liberté puisqu'ils sont suivis partout par les réseaux sociaux, avec les téléphones partout pour prendre des photos. Et donc, c'est un peu normal qu'il y ait une petite distance qui s'est créée comparée à une époque antérieure. On parle de ça, là, il y a 20, 30, 40, 50 ans et plus. Donc, voilà. Mais je parle de ça pour vous mentionner que Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi, qui sont, selon les standards MLS, parmi les meilleurs joueurs de la Ligue, en termes d'histoire, en termes de pedigree, en termes de talent sur le terrain, ce sont des cracks. Ce sont des bons joueurs, ce sont des joueurs qui sont très au-dessus. Très, 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 très au-dessus de la moyenne des joueurs. Et quand les joueurs descendent de l'autobus au Stade Saputo, ils rentrent par une porte, puis après ça, ils descendent l'escalier, puis ils vont dans le vestiaire se changer, puis se préparer pour le match. Mais la porte, elle est tenue par un garde de sécurité, et derrière le garde de sécurité, il y a une petite barrière de métal, où est-ce que les fans sont là, ils ont le droit de venir, d'observer les joueurs, c'est tout juste à côté, là. Sauf, bien entendu, pour Lionel Messi, parce que lui, quand il est venu, il n'y avait pas de barrière, les fans étaient encore plus éloignés, parce que c'est Messi, donc c'était une condition de la sécurité, j'imagine. Mais en général, à part Messi, les joueurs rentrent par là, donc les joueurs sont à quelques mètres, là, même pas un mètre des spectateurs quand ils rentrent dans le stade. Et les joueurs, les spectateurs, généralement, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, ils viennent là avec des chandails, ils veulent faire signer leur chandail, ils veulent prendre des photos, ils veulent dire salut aux joueurs, des fois ils veulent échanger une petite conversation, un petit conseil, des trucs comme ça. Et en général, pour avoir vu la plupart des joueurs venir, la grande majorité, ils vont répondre, ils vont dire bonjour, puis ils vont rentrer. Ils vont même pas arrêter leur match, leur marche pour saluer les joueurs. Ils vont dire bonjour, puis ils vont rentrer, descendre l'escalier, aller dans le vestiaire, se préparer. Puis c'est correct aussi. Et certains joueurs, des vedettes que je nommerai pas, qui sont débarqués au Stade Saputo, ils ont à peine dit salut aux fans, puis ils sont rentrés directement. Et Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi, c'est la deuxième fois qu'ils viennent au Stade Saputo depuis que je suis le CF Montréal, et les deux fois, ils se sont arrêtés et ont signé tous les chandails et ont pris toutes les photos que les spectateurs voulaient, avec le sourire, alors qu'ils ne sont pas obligés de faire ça. Puis on s'entend là, on parle de deux joueurs de Toronto qui débarquent à Montréal. C'est même pas des joueurs du CF Montréal, là. C'est des joueurs de Toronto. Donc, ça indique le grand cœur que ces deux joueurs ont. Et puis, honnêtement, Toronto FC, ils sont chanceux de les avoir, non seulement sur le plan talent, mais de ce que je vois, de leur interaction avec les spectateurs, ils ont signé beaucoup de chandails, ils ont pris beaucoup de photos. Ils sont restés là un bon 5 minutes alors qu'il faut qu'ils se préparent pour le match, là. Puis des jeunes, puis pas seulement des Italiens, parce qu'on pourrait dire, ouais, ils ont signé juste pour les Italiens. Non, non, non. Ils ont signé pour tout le monde. Il y avait des Italiens, d'ailleurs, qui leur parlaient en italien. Ça, j'ai trouvé ça cool. Parce que on n'entend pas, c'est une belle langue, l'italien, puis on l'entend très peu souvent. Donc, voir deux joueurs, un de Naples et un de la Juventus débarqués, là, avec beaucoup de chandails de Naples, d'ailleurs, le club de Maradona, hein, il faut le mentionner. Et Insigne est une légende là-bas à Napoli. Il a gagné beaucoup de trophées là-bas. Malheureusement, il n'a pas gagné le titre de champion avec Naples parce qu'il est parti l'année où est-ce qu'ils l'ont gagné. Donc ça, c'est un peu une tâche à son dossier, si on veut. Mais il a gagné l'Euro avec l'Italie, puis ça va être probablement le titre le plus spectaculaire qu'il gagnera de toute sa carrière. À moins qu'il gagne peut-être un jour la Coupe du Monde des clubs avec le Toronto FC. Mais même là, je pense que le titre de champion d'Europe avec l'Italie, ça va lui faire énormément de plaisir. Donc, félicitations à Lorenzo Insigne et félicitations à Federico Bernardeschi. Maintenant, on va retourner sur le terrain. Pour ce match, l'alignement de départ, Sirois dans les buts, défense à 3 avec Alvarez, Waterman, Sosa. Milieu de terrain, Chouanière, Piette, les deux Québécois. Au milieu de terrain, Piston à droite, Juan, le Brésilien. À gauche, Raheem Edwards. Ariel Lasseter, Vilsain et Joseph Martinez, les trois attaquants de l'équipe qui ont commencé. Le score, ça s'est terminé pour... ce match-là, 1-0 pour Toronto FC avec un but de Laria. Laria, d'ailleurs, qui a été un peu baveux. Là, ça m'a très étonné son comportement avec certains de ses joueurs. Richie Laria, qui est international canadien, qui a pratiquement, je vais le dire comme ça, là, envoyé chier Mathieu Chouanière sur son, avec son attitude sur le terrain. Il n'a pas une belle attitude, le joueur canadien de Toronto. Puis à la fin du match, je l'ai vu, il est allé voir Mathieu comme pour lui dire « Hey, ça va ». Il a mis sa main autour de son cou, puis Mathieu a dit « Non ». Lâche-moi, puis il est parti, tout simplement. Mais il avait vraiment une performance très ordinaire malgré son but. Avec un carton jaune, il aurait facilement pu en avoir un autre pour avoir un rouge. Mais bon, il a marqué, puis Toronto FC a remporté ce match-là. Ça a été un match qui a été âprement disputé, 55% de possession pour le CF Montréal, 45% pour Toronto FC. Toronto FC, comment on peut expliquer ça? Ils ont des joueurs de classe mondiale que le CF Montréal n'a pas. Insigne Bernardeschi. Le CF Montréal n'a pas de joueurs comme ça. Puis après ça, ils ont des joueurs corrects, des joueurs respectables comme Laria, comme Osorio qui est une légende là-bas à Toronto. Le gardien de but également est pas mauvais. Puis à part ça, les remplaçants de Toronto FC, là, les attaquants normalement qui sont rentrés, ont été très mauvais. Ce qui fait en sorte que Toronto FC pouvait prendre les devants 2-0 avec des opportunités en or. Ils ne l'ont pas fait. Et le CF Montréal a essayé par tous les moyens de trouver l'égalisation dans ce match-là. Ils n'ont pas été capables de le faire. Et Toronto FC prend une victoire très importante chez son rival au Canada, au Québec. L'ennemi juré du Toronto FC, puisqu'on s'entend là, que c'est la grosse rivalité entre ces deux équipes-là. Avant ce match-là, le CF Montréal avait 27 points. Et Toronto FC en avait 27. Et donc, au classement, ça a été très négatif pour le CF parce que là, le CF est 11e avec 27 points et Toronto est 8e avec 30 points. Mais Toronto FC a un match en main. Un match de plus de jouer, pardon. C'est Montréal qui a un match en main. Montréal, maintenant, une fiche de 25 matchs joués, 6 victoires, 9 matchs nuls et 10 défaites, 34 buts marqués, 49 buts encaissé. C'est la pire défense de l'Est, mis à part nos amis de DC United qui ont encaissé un but de plus, ils ont encaissé 50 buts. Donc 49 buts, c'est pas l'idéal là, pour le CF Montréal, surtout qu'on ne marque pas énormément de buts. Là, la bonne nouvelle pour le 11 Montréalais, c'est qu'il va avoir une petite trêve, une petite pause, parce que c'est la League's Cup qui s'en vient. Donc le prochain match en MLS... Pour le CF Montréal, c'est dans un petit bout. Là. On est en train de regarder, là, ça va être le 24 août. Donc ça, c'est dans plus d'un mois. À cette époque-là, le 24 août, le sport universitaire va déjà y recommencer. Puis on va en parler pas à peu près, parce que d'ailleurs, on va vous donner ça là, dans quelques minutes. L'horaire est sorti pour les équipes de football, de soccer. On va vous donner les dates à ne pas oublier pour aller voir du sport local et de qualité ici dans la belle région montréalaise et au Québec également. Là, les deux prochains matchs pour le CF Montréal, eh bien, ce sera des matchs en League's Cup. On va se déplacer du côté d'Orlando le 26 juillet prochain. Coup d'envoi à 20h, ça c'est vendredi, pour y affronter le Orlando City FC. Et on sera de retour après ça le 30, donc je crois que c'est un mardi le 30 juillet à 19h pour jouer contre les Mexicains de San Luis Potosí. C'est une ville qui est au nord du Mexique, là, qui, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est pas du tout la meilleure équipe du Mexique, là. C'est une des moins intéressantes qu'on aurait pu recevoir ici là, à Montréal, parce que la Ligue mexicaine, ils ont 18 équipes. Puis j'ai nommé toutes les équipes qui sont un peu plus, je vous dirais, suivies au Mexique et qui attirent beaucoup plus de Mexicains que San Luis Potosí. Peut-être que les Mexicains vont venir pour encourager, puis vont venir avec des chandails de Pumas, d'América, tout ça, mais ça reste que San Luis Potosí. On peut comparer ça un peu au Blue Jackets là, de Columbus, si on compare ça avec la Ligue nationale de hockey. Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca, Atlas, Pumas, Guadalajara, Tijuana, América, Pachuca, Puebla, León, Santos, Querétaro. Ce sont tous des équipes qui sont plus populaires au Mexique que San Luis. Donc, il y a très peu d'équipes. En fait, on aurait pu avoir Mazatlán qui aurait été un peu aussi mauvais que San Luis, Necaxa puis Juárez. C'est à peu près tout. Donc, sur 18 équipes, on n'a pas pogné la meilleure pour jouer un match de League's Cup au Stade Saputo, mais ça reste que ça va être une équipe mexicaine. Puis, on espère peut-être que, par miracle, il va y avoir certains fans de San Luis Potosí qui vont faire le déplacement du côté du CF Montréal et du Stade Saputo. Sur ce, on va faire une petite pause musicale et on revient après ceci, avec d'autres actualités. Vous écoutez le terrain sportif sur les ondes de CSM et de CFAC. Bougez pas. De retour sur les ondes de CSM et de CFAC, vous écoutez l'émission sportive hebdomadaire Le Terrain Sportif avec votre animateur Wissem Bensta. Donc c'était nos deux chansons, nos deux nouveautés francophones de la semaine. Sherpa de Angine de Poitrine, chanson qui est au numéro 5 du palmarès CSM. Et après ça, eh bien c'était Au bout de ma rue, Paquebot de Caro D. Donc deux très bonnes chansons, très originales. Donc nous avons apprécié ça et nous l'avons mis pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Pour boucler la boucle du CF Montréal pour cette semaine, on va donner quelques petites notes importantes. Eh bien, Samuel Piette, le capitaine du CF Montréal, il est devenu le meneur de tous les temps chez le CF Montréal pour le nombre de matchs joués en MLS avec 177 matchs. Et ça, c'est beaucoup dans le football d'aujourd'hui, où est-ce que les joueurs bougent beaucoup, où est-ce que les joueurs changent beaucoup de club, où est-ce qu'ils se font transférer. Avoir un joueur comme ça, là, comme Samuel Piette, qui joue plus de 170 matchs avec le même club, c'est légendaire et je le félicite. Et je l'ai mentionné plusieurs fois à cette émission, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu là, on n'a pas écouté une conférence de presse de lui, puisqu'hier j'ai dû quitter plus tôt, mais il a participé à la conférence de presse. C'est une personne très gentille, très humble, qui est disponible pour tout le monde, qui parle avec les gens. Et donc, je suis très content que ce soit lui qui ait battu le record pour le plus grand nombre de matchs joués avec le CF Montréal. Ariel Lassiter, quant à lui, sera suspendu à son prochain match en MLS en raison d'accumulation de cartons jaunes. Et le match a été joué à guichet fermé, salle comble, pour la 12e fois en autant de matchs cette saison. En MLS, bien entendu, on ne parle pas ici là, du match de la Coupe du Canada contre Forge FC. Laurent Courtois, maintenant, ce qu'il a dit après le match, il a dit « Je ne crois pas qu'il y ait un manque d'effort ce soir. Je ne suis pas timide non plus quand je trouve que c'est le cas. Un manque d'audace, peut-être. Je pense qu'il y avait trop de volonté de préparer et pas assez de folie. On était trop méticuleux. En deuxième mi-temps, nous étions plus relâchés. On a plus tenté, mais on doit créer plus de situations dans la surface. Les gars voulaient vraiment bien faire. » Et quant à Samuel Piette, qui l'a dit, le monsieur qui a joué le plus grand nombre de matchs de l'histoire du CF Montréal et de l'Impact, en passant, « Le résultat est frustrant ce soir, car on n'a pas été mis en danger, mais dans l'ensemble, on a été en contrôle. Le bloc de Toronto était compact et difficile à percer. On a eu de la peine à jouer devant eux. En deuxième mi-temps, on a accéléré le rythme et on a montré notre volonté. Un match contre Toronto, c'est toujours comme ça. On a quand même gagné beaucoup de duels. » Donc voilà, il y a eu cette boost. C'est sorti souvent ça par les joueurs puis en conférence de presse que relativement le CF avait dominé Toronto FC. C'est vrai qu'il l'a fait en termes de possession de balles, mais dans les occasions franches, le Toronto FC aussi, ils en ont vendangé là, 2-3. Donc le résultat pour ce match-là, un match nul, aurait été peut-être un résultat plus logique et non pas une victoire pour Toronto FC. puisque d'ailleurs leur but paraissait vraiment hors-jeu, mais finalement, suite à l'assistance vidéo, il ne l'a pas été. Donc ça a été un but valide par Richie Larrea. Donc voilà côté CF Montréal, prochain match là bien vendredi prochain, le 26 juillet du côté d'Orlando et après ça, comme je l'ai dit, mardi contre San Luis Potosí au Stade Saputo. Ça va être une bonne ambiance quand même, là, même si c'est pas le meilleur club mexicain de tous les temps, je l'ai déjà mentionné, le Mexique. C'est un pays de foot, puis je suis sûr qu'il va quand même avoir des Mexicains et des autres grandes équipes qui vont venir au stade Saputo. Donc ça devrait être une belle fête un mardi soir. Malheureusement, ce ne sera pas une journée de fin de semaine. Donc on espère que ça sera quand même plein. Et puis les fans de Toronto FC, eh bien ça a été tout simplement la plus grande foule de partisans d'une autre équipe qui sont débarqués au Stade Saputo cette année. C'est d'ailleurs un des déplacements les moins courts à faire pour Montréal. Il y aurait peut-être Boston également, New York, mais ils ont rempli la section là, des visiteurs, puis ils ont surtout chanté pendant 90 minutes. Ça faisait un peu changement là, d'avoir des tambours puis du rythme à côté de la galerie de presse, puisque ça n'était pas très loin. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, je veux vous faire entendre, on va changer de sujet, la Copa América s'est terminée la semaine dernière, mais il y a quelque chose que je voulais vous faire entendre de l'entraîneur-chef, j'ai nommé Monsieur Jesse March. Je vous fais entendre ce qu'il a dit à propos de l'arbitrage et on va revenir après ça pour commenter.
Tournament has not been professional for me. There's too many gaps in the way, in the treatment, in the overall experience from a day-to-day perspective. You know, I watched what happened after the match, and certainly I didn't know all the details, but, you know, certainly we wouldn't want anyone's families or any player's families to be put in harm's way. But I know if Team Canada, if our team would have responded like this, that there would be heavy sanctions. Because of the treatment that we received from in this tournament the whole time. We've had our players be headbutted. We've had racial slurs thrown at our players live and through social media, and not just the situation with Moyes, but the entire tournament from opponents' fan bases and from whether it's live or in social media. We've been treated like second-class citizens, and in the entire time, I've challenged our team to stay disciplined and stay focused on our task at hand and to make sure that we represent ourselves and our country, because in the end, that's what this is. This is about representing your nation. You're on the national team, and our players have held themselves to the highest level of integrity. We've played hard. We've played aggressive. We've often been accused by the opposing coach before the match as a play to the referees that we crossed the line and that we're overly aggressive. And yet, if you look at the CONCACAF teams and the treatment that they get in games, and the yellow cards per foul rate is way higher for every CONCACAF team. I watched the Uruguay-US game, and it was, for me, one of the most biased ref games against the United States that I've ever seen on their home soil. There's so many things I could say, but what I will again say is a big compliment to our team. Yeah, with that question, you give me another opportunity to talk about how poor the refereeing was in the tackle with Alphonso Davies. And if you were to turn it over and put that against the biggest player from the other team, specifically from South America in this tournament, the behavior and the treatment for such a tackle in such a situation would be very different. So we were lucky that we avoided any big injury with Alphonso, but we're not totally certain if he'll be available tomorrow. And one of the main jobs of a referee in any match is to protect the safety of players. And that was not doing his job.
Voilà, donc c'est l'entraîneur-chef Jesse March qui parle de l'arbitrage fantastique qu'il y a eu lors de la Copa América qui se passait aux États-Unis, hein, il faut le mentionner. Copa América qui est un tournoi d'Amérique du Sud. Écoutez, je vais vous expliquer ça en deux volets. Là, pour ceux qui aiment la langue de bois, ben, je vous invite à peut-être baisser le volume parce qu'il n'y en aura pas. Ça va sortir cash, ça va être ma vérité à moi, mon opinion, mes faits. Surtout, il va y avoir des faits. Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Jesse Marsh dans cette petite conférence de presse d'après-match? Premièrement, il a dit qu'il y a eu des joueurs canadiens qui se sont fait donner des coups de tête puis qui n'ont pas été pénalisés. Ceux qui ont eu des coups de tête, pas de carton rouge. Il a également dit que certains de ces joueurs ont reçu des insultes raciales durant tout le tournoi par des spectateurs dans le stade. Il a également mentionné que l'Uruguay, cette équipe qui, on le sait très bien, quand elle perd souvent à la Coupe du Monde, c'est arrivé, ils ont jeté le VAR par terre. Donc, il y a souvent une attitude dans la défaite qui n'est pas la meilleure. Ils sont sortis dans les gradins puis ils sont allés frapper des spectateurs colombiens. La raison serait que certains spectateurs colombiens s'en seraient pris à leur famille. Est-ce que c'est vrai ou pas? On le sait pas. On peut pas nier ça. Puis il avait dit que si ça avait été le Canada qui était monté dans les gradins puis qui avait fait la même chose, il y aurait très probablement eu des sanctions. Parce qu'il y a des joueurs qui sont montés dans les gradins, qui ont donné des coups de poing à des spectateurs et puis qui ont joué le match d'après pour la troisième place. Donc c'est quand même très douteux. Il a également mentionné quelque chose de très intéressant auquel je n'avais pas pensé. Il a dit que les équipes de CONCACAF, c'est-à-dire Canada, Jamaïque, Mexique, États-Unis, ont eu beaucoup plus de cartons jaunes par faute en termes de ratio que les autres équipes d'Amérique du Sud. Et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est vrai, et je dirais même plus que ça, que même Vinicius avoir un carton jaune, sa première faute pour le Brésil, après 5 minutes, c'est un scandale et c'est de la corruption. C'est comme ça que je le dis clairement. Parce qu'on a des joueurs pour certaines équipes, je vais la nommer l'Argentine, avec des joueurs dans cette équipe-là qui ont une attitude atroce, qui font des fautes à répétition, qui parlent avec l'arbitre à répétition et qui ne sont pas avertis. Donc Jesse Marsh a parlé de ça et Jesse Marsh a eu le courage de dire ça, lui, entre guillemets, petit entraîneur de l'équipe nationale canadienne. Et puis, il a mentionné d'ailleurs que dans le match contre l'Argentine, là, le tacle sur notre meilleur joueur canadien de tous les temps, Alphonso Davies, qui se fait cisailler par un joueur argentin, j'ai oublié c'était lequel, je pense que c'est Molina, je ne me rappelle plus c'est lequel. Et puis, qui fait sortir Alphonso Davies de son match sur blessure. Et le joueur argentin n'a même pas de carton jaune. Je peux vous garantir, vous pariez ma maison, mon épargne, mon véhicule, tout ce que vous voulez, mes REER, mon CELI, que si ça avait été sur Lionel Messi, ce tacle-là, je vais vous dire qu'est-ce qui se serait passé. Il y aurait eu 10 joueurs argentins sur 11, mis à part peut-être Julian Alvarez, qui lui peut-être n'aurait pas fait ça, qui serait allé dans la face de l'arbitre. Et la moitié serait allée dans la face du joueur qui aurait fait le tacle. Il l'aurait poussé par terre. Peut-être qu'il aurait marché dessus. Et puis, il n'aurait eu aucun carton jaune pour ça. Et en plus de ça, le joueur canadien qui aurait fait le tacle aurait eu un carton rouge. Right? Ça, c'est la réalité des choses. Et donc, cette Copa América, pour moi, c'est une vraie blague. Et celle qui s'est passée au Brésil aussi, de la façon avec laquelle l'Argentine a gagné, pour moi, c'est une vraie blague également. Parce que quand tu passes 2 minutes au sol pour chaque faute et que le match ne fait que se jouer avec des fautes à répétition, pour moi, c'est pas un beau match, c'est pas du soccer, surtout avec le soccer que l'Argentine peut produire. Donc encore une fois, pour la Copa América, là, la dernière, la 2020, on remercie là le Brésilien qui ne joue plus avec l'équipe nationale brésilienne, Reinaldo, je crois qu'il s'appelle. Ça a été vraiment là... Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelait Reinaldo, le latéral qui avait manqué le ballon et qui avait permis à Di Maria de partir one-on-one avec le gardien. Là. Il n'est plus là. En tout cas, voilà. Donc, Jesse March fait bien de le mentionner. L'arbitrage a été catastrophique, mais vraiment catastrophique. C'est une honte pour le soccer. C'est une honte d'avoir un tournoi qui se passe aux États-Unis avec un arbitrage aussi mauvais. D'ailleurs, les Européens, ils ont bien accepté un arbitre argentin pour arbitrer l'Euro. Alors, je ne sais pas pourquoi l'Amérique, la Comebol, donc la zone de l'Amérique du Sud, n'accepterait pas un arbitre africain ou un arbitre européen ou asiatique pour arbitrer des matchs de la Copa América, puisqu'on sait très bien que beaucoup de fois, ça se joue un peu avec l'arbitrage, ces matchs-là. C'est-à-dire avec celui qui va parler le plus souvent à l'arbitre, mettre la pression à l'arbitre tout le temps en permanence, chose qui n'est pas très culturelle chez le Canada, on va bien se le dire, puis chez les États-Unis non plus. Il y a des équipes qui sont capables d'un peu plus... qui ont le talent, qui ont le tour d'aller un peu plus convaincre les arbitres indirectement. Hein. Je suis pas en train de dire que les arbitres ont donné la victoire à l'Argentine, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que sur plusieurs détails, il y a des équipes qui se sont faites clairement désavantagées lors de ce tournoi-là, entre autres Canada et le Brésil. Puisque je peux vous garantir que si le coup de tête que Alistair Johnston avait ramassé d'un joueur pérouvien, si Alistair Johnston donne ce même coup de tête à Lionel Messi, je peux vous garantir que c'est carton rouge direct et Alistair Johnston s'en va au vestiaire la tête baissée et ne dit pas un seul mot. Là, le joueur pérouvien donne un coup de tête au joueur canadien. Le joueur pérouvien en plus va se plaindre à l'arbitre. Ça n'est même pas vu avec la reprise vidéo. Pas de carton jaune, rien. Je crois peut-être qu'il y a eu un carton jaune. Peut-être que je me souviens plus, mais il y avait peut-être eu un carton jaune, mais certainement pas de carton rouge. Donc voilà, ça c'est l'arbitrage auquel on a eu droit. Et puis Jesse March a très bien fait de le dire. L'arbitrage n'est pas juste. Il y a de la communication avec l'arbitre qui se fait. Il y a des avantages donnés à certaines équipes. Et donc voilà, c'est fait pour Jesse March, j'ai dit. Maintenant, mon deuxième point. Je parlais en début d'émission de Enzo Fernandez, ce joueur très intelligent, entre guillemets, hein, c'est sarcastique, de l'Argentine qui a repris, après la victoire de la Copa América dans l'autobus, il a repris une chanson que certains abrutis fans de l'équipe nationale d'Argentine ont chantée. Quand il disait, en fait, il chantait que Mbappé, que son père venait du Nigeria puis que sa mère de l'Angola et des choses comme ça. Je tiens à expliquer quelque chose de très important. Il y a des gens, encore aujourd'hui en 2024, qui associent couleur de peau et nationalité. Hein? On le sait très bien, c'est comme ça. Les gens, c'est pas tout le monde qui ont la pleine capacité de l'utilisation du cerveau, cette partie du crâne qui nous a été donnée, hein, par qui, ça vous appartient, mais qui dont chaque humain dispose, la très grande majorité des humains dispose, pour juger, pour réfléchir et pour faire des déclarations intelligentes. Et donc, Enzo Fernandez, il a repris cette chanson-là en disant qu'Mbappé, en fait, que sa mère vient de l'Angola, que son père vient du Nigeria, puis qu'il a la nationalité française. En gros, ce que beaucoup d'Argentins disent sur les réseaux sociaux, il faut le mentionner, pas de langue de bois, c'est que la France a une bonne équipe parce qu'ils ont nationalisé des joueurs africains. C'est ce qu'ils disent. Right? Donc, premièrement, très très simple, Kylian Mbappé est français. Elon Musk vient d'Afrique du Sud. Barack Obama est américain. Michael Jordan est américain. Lionel Messi est argentin. Quand on parle de Lionel Messi, on dit qu'il est argentin. On ne dit pas qu'il vient de l'Italie. Le président de l'Argentine, Milei, qui a défendu Enzo Fernandez, lui aussi, c'est tout un phénomène. On ne dit pas du président de l'Argentine qui vient de la Croatie ou de l'Italie. Il est argentin, il est né là-bas, il a grandi là-bas. Les joueurs de l'équipe de France sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas en France, ils sont français tout simplement. Right? Parce que les gens ont comme un peu de difficulté à comprendre qu'en 2024, les pays, ils sont mélangés. Les sociétés sont mélangées. La très grande majorité, la très grande partie des pays ont une variété, une diversité ethnique. C'est pareil partout. Sauf que certaines personnes, surtout quand c'est des joueurs noirs, ils remettent en doute leur nationalité. Il n'y a pas de remise de doute, il n'y a rien. Ces joueurs-là sont français à 100%. Parce que sinon, on va aller dans l'autre sens aussi. Équipe nationale d'Argentine, moi je vois un Lionel Messi, puis je vois un Diego Armando Maradona. Ça vient pas de la même place, ça, là. Il y en a un qui est d'origine européenne, l'autre est d'origine des autochtones, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant que les Européens arrivent. Ils ont des joueurs mélangés, ils ont des joueurs blancs européens, ils ont des joueurs foncés. Comme la France a des joueurs blancs d'origine européenne, d'origine allemande, d'origine portugaise, d'origine italienne, d'origine polonaise, d'origine africaine également. Donc voilà. Et Enzo Fernandez, le comble là-dedans, c'est qu'il ne joue pas là, du côté de la 3e division en Islande ou bien en Argentine, dans la 1ère division en Argentine, là, où est-ce qu'il se marque un but par match, puis où est-ce que le l'enjeu, souvent, c'est celui qui va réussir à influencer un peu plus l'arbitre, à donner un petit carton jaune. Un but par match en Argentine, ou deux buts. Hein? 0-0, un but à la première minute, on ferme le jeu, puis ça finit 1-0. Il joue à Chelsea, équipe dans laquelle il y a beaucoup de joueurs français d'origine africaine. Mais je répète, français d'origine africaine. Donc, Kylian Mbappé, et en plus, leur chanson qu'ils ont inventée, ces fans argentins-là, c'était 4-5, c'était durant la Coupe du Monde au Qatar, là, ces 4-5 idiots, ils ne sont pas rendus compte que l'Angola et le Nigeria, ce ne sont pas des colonies françaises. Donc, des joueurs du Nigeria qui jouent avec l'équipe nationale de France d'origine, il n'y en a pas. Angola, je pense qu'il y en a un, c'est Camavinga. Fait qu'il faudrait que les gens se réveillent un peu. Donc, j'ai hâte de voir comment Enzo Fernandez va s'adapter avec ses partenaires maintenant qui vont être déçus de lui. Et puis, ça va dans les deux sens, d'ailleurs. Puis là, on n'est pas en train de dire que en France, tout le monde est gentil puis tout le monde est tolérant. C'est pas ça qu'on dit. C'est la base. C'est-à-dire que le joueur, il est né en France, il a grandi en France. Peu importe sa couleur de peau, ses cheveux, ses yeux, sa pilosité, c'est un Français. Par exemple, là, si vous me diriez, l'équipe de France actuelle, eh bien, il y a un joueur qui joue avec l'équipe de France, il est le meilleur de l'équipe, puis il est né à Taïwan, il a grandi à Taïwan, puis il est arrivé en France il y a deux semaines. Là, oui, je vais être d'accord avec vous, il vient de Taïwan. Mais quand un joueur naît et grandit dans un pays, il vient de ce pays-là. Après ça, est-ce qu'il a plusieurs cultures? Oui. Est-ce qu'il a d'autres origines? Oui, tout simplement. Mais moi, je trouve ça un peu étrange que ça arrive souvent avec des joueurs africains que les gens font ça. Mais ils ne font pas, par exemple, quand ce sont des joueurs d'origine européenne. En Afrique du Sud, l'équipe de rugby d'Afrique du Sud, je crois peut-être à 70-80%, l'équipe est blanche. Alors que la population d'Afrique du Sud, peut-être les Blancs sont environ, je ne sais pas, 10%. Personne remet en cause leur nationalité sud-africaine. Vous avez déjà vu quelqu'un remettre en cause la nationalité d'Elon Musk? Il vient d'Afrique du Sud. À ce que je sache, l'Afrique du Sud, c'est un pays à très grande majorité noire. Pourtant, personne ne remet son identité en cause. À juste titre, parce qu'il vient de là-bas, il a grandi là-bas. Tout comme Kylian Mbappé, né et grandi en France. Donc, pourquoi est-ce qu'on remet en cause l'identité et la nationalité de Kylian Mbappé, mais on ne le fait pas avec Elon Musk? L'équipe nationale de la Namibie au rugby, à 86%, la Namibie, c'est un pays noir. À 86%, l'équipe de rugby de la Namibie, elle est composée de joueurs d'origine européenne. Est-ce que les gens viennent s'indigner par rapport à ça? Non. Pourquoi on le fait avec l'équipe de France? Et puis, plus ça va, c'est comme ça aujourd'hui. À part quelques pays, peut-être comme l'Islande, peut-être la République centrafricaine, je dis n'importe quoi. Les pays aujourd'hui ont une diversité ethnique. C'est un fait, acceptez-le, puis arrêtez de venir nous emmerder puis nous faire chier avec des commentaires racistes parce que vous dites que il vient pas de là-bas parce qu'il est noir. C'est tout simplement de la bullshit. La grosse bullshit avec un B majuscule. Après, les gens ont le droit de ne pas aimer ça. Ça, je comprends. Tu peux aimer, tu peux ne pas aimer. Il y a des goûts, il y en a pour tous. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, ne viens pas remettre en cause la nationalité d'un joueur parce qu'il a une couleur de peau que tu n'aimes pas ou que tu n'associes pas à un pays. Surtout des pays comme la France, l'Angleterre, l'Espagne. Je vais terminer là-dessus. Kylian Mbappé, il est français. Paul Pogba, il est français. Jude Bellingham, il est français. Lionel Messi, il est argentin, tout simplement. Ce sont des gens qui sont nés et qui ont grandi et en plus, en bonus, qui ont été formés dans le pays. Lamine Yamal, le joueur qui joue avec l'Espagne, là, qui a été de 16 ans, qui a fait un euro exceptionnel, il est espagnol. Mais les gens vont dire non, c'est pas un espagnol, c'est un marocain. OK. Il est marocain, mais parce qu'il est marocain, il ne peut pas être espagnol. Il faut que les gens commencent à réaliser que, oui, il y a les origines, mais également les racines. L'un va avec l'autre. C'est pas parce que tu es un que tu n'es pas l'autre. Puis c'est valide pour pas mal tout le monde. Les gens, généralement, qui grandissent, qui ont des origines diverses du pays dans lequel ils vivent. Donc, l'origine, il y a le contenu, puis il y a le contenant. C'est pas la même chose. Les gens qui grandissent, mettons, ici, on en a à Montréal, on en a plein, qui viennent, qui sont nés ici, puis qui ont des origines étrangères. Vous prenez cette même personne-là, puis vous la mettez dans son pays d'origine, la Grèce, la Roumanie, l'Algérie, le Togo, le Chili, la Chine. Est-ce que vous pensez que parce qu'il y a la couleur de peau et le physique de la place, que culturellement, il est plus près de la place que de son pays natal où est-ce qu'il est né? Moi, je pense que non. Moi, je pense que où est-ce que tu grandis, où est-ce que tu nais, où est-ce que tu vis, c'est pas beaucoup plus important, mais ça a une très, très grande importance sur la culture. Puis les gens ont un peu de difficulté avec ça. Parce que ben, Kylian Mbappé, ils n'aiment pas trop. Fait qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis c'est pas juste Kylian Mbappé, en fait, c'est n'importe qui. Ils vont dire, ah ouais, mais non. Je le répète, Kylian Mbappé, français, puis vous salue. Et puis, sur ça, je voulais aussi parler, c'était un exemple, ce symptôme-là d'Enzo Fernandez, qui a eu une attitude de marde après avoir gagné la Copa América. Puis c'est pas la première fois que l'Argentine gagne un trophée et se comporte, je parle des joueurs ici, bien évidemment certains spectateurs, comme des vrais ignorants. L'attitude dans la victoire de beaucoup de joueurs argentins est tout simplement déplorable, voire dégueulasse. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. À ce point-là, c'est-à-dire le gardien de but argentin qui danse avec une photo d'Mbappé lors de la célébration de l'Argentine en Argentine après la finale de Coupe du Monde, la chanson raciste également, les chansons sur Mbappé comme quoi il sortirait avec... en tout cas, je ne vais même pas répéter qu'est-ce qu'ils ont dit. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, mais malheureusement, c'est la réalité. Des fois, ce ne sont pas les plus... Les gens, c'est pas tout le monde qui s'est gagné malheureusement. Quand tu te fais planter année après année après année et que tu gagnes comme ça, certaines personnes oublient qu'ils étaient dans le trou pendant des années et qu'ils n'ont rien gagné. Donc, ils décident un peu de faire chier le peuple puis de célébrer avec des commentaires et des comportements totalement inacceptables et dignes d'adolescents d'à peu près 14, 15 ans, voire 13 ans. Donc voilà, c'était la montée de lait de la semaine au terrain sportif, et je le répète, pour tous nos éditeurs, pour tous nos auditrices, Kylian Mbappé, il est français. Rachid Badouri, il est québécois ou canadien, indépendamment de ce que vous voulez. Barack Obama est américain, et Barack Obama n'a pas besoin de vous montrer son certificat de naissance, comme certains le réclamaient. Il est américain. Born and raised in the United States of America. Et puis le born, on s'en fout pas mal, parce que si tu nais à deux mois puis tu arrives ici, là, moi c'est comme quand je parle avec des gens puis qu'ils me disent qu'ils sont fiers parce qu'ils sont pas nés ici, ils sont arrivés ici à un ou deux ans. Je suis comme, ok, mais t'as grandi où? T'as grandi ici. Voilà, donc c'est ça. Il n'y a pas de langue de bois ici là, au terrain sportif, surtout dans ces sujets-là. Et sur ce, après avoir dit que Kylian Mbappé est français, on va aller écouter une chanson d'un rappeur bulgare, lui qui est intelligent d'ailleurs, qui a fait une chanson de rap sur Kylian Mbappé après la Coupe du Monde 2010. On a droit à une chanson non francophone par semaine. Eh bien, cette semaine, ça va être en bulgare. On revient après ceci. De retour sur les ondes de CSM et de CFAQ, les deux radios universitaires très importantes dans le paysage médiatique québécois. CSM, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, et CFAQ, le 88,3 FM, la et l'unique radio de l'Université de Sherbrooke en Estrie. Wissam Ben Stah avec vous. Pour encore à peu près une quinzaine de minutes, là, il nous reste des informations à vous donner. On vient d'entendre trois chansons exceptionnelles. Encore une fois, on va vous les renommer, puisque c'est des chansons qui sont la première. C'est un message que j'envoie à certaines personnes. C'était tout simplement la chanson Kylian Mbappé de Fire, artiste de la Bulgarie. Je le répète, mesdames et messieurs, à tous ceux qui sont remplis de haine, je vous le répète une dernière fois, Kylian Mbappé, il est français. Et oui, tout simplement. Right? À certaines personnes écervelées qui... des fois, les gens, ils sont ignorants par nature. Ça arrive, donc on peut pas en vouloir à tout le monde. Mais ceux qui le font avec la haine au cœur, la haine au ventre, eh bien, je vous le répète, Kylian Mbappé, il est français. Et puis, il vous salue du Real Madrid. Et c'est tout simplement un des meilleurs joueurs au monde, juste pour le mentionner. Donc, on te salue, mon cher Kylian. Sinon, après ça, eh bien, on a entendu la chanson Escale à Madrid de Evelyn Brochu. Et ça, c'est en hommage à l'équipe nationale espagnole qui a gagné l'Euro. Et on avait du Safia Nolin avec la chanson France. Donc, en l'honneur de Kylian Mbappé et puis de l'équipe nationale espagnole. Maintenant, nouvelle de l'Alliance de Montréal. Les choses, les semaines se suivent et se ressemblent puisque deux défaites récemment. Donc, c'était vendredi dernier, bien défaite de 90 à 80 contre le Calgary Surge. Et avant ça, c'était une défaite le 16 juillet de 91 à 71 contre les Scarborough Shooting Stars. Prochain match pour l'Alliance de Montréal, eh bien, ça va être le 26 juillet, vendredi prochain, contre les Rattlers de la Saskatchewan. Et puis, à l'heure actuelle, les choses vont très mal pour l'Alliance. Parce que non seulement ils perdent Annie Larouche, mais ils perdent des matchs. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de classement? Dans l'Est, River Lions de Niagara, 19 matchs joués, 13 victoires, 6 défaites. Donc, il leur reste tout simplement un petit match à jouer parce que c'est une saison de 20 matchs. Scarborough Shooting Stars, 11 victoires, 7 défaites. Ottawa Blackjack, 7 victoires, 10 défaites. Brampton Honey Badgers, 6 victoires, 12 défaites. Et puis, l'Alliance de Montréal est bien dernier de toute la ligue avec 4 victoires, 14 défaites. Et puis, à nos 5 derniers matchs, là, on a perdu 4 fois. Puis on a gagné une fois. Dans l'Ouest, la meilleure équipe, une des meilleures équipes de la Ligue, Vancouver avec 12 victoires, 5 défaites. Edmonton, 12 victoires, 7 défaites. Calgary Surge, 10 et 7. Winnipeg Sea Bears, 8 et 12. Et Saskatchewan Rattlers, qui est la pire équipe de l'Ouest, qui vient de battre la pire équipe de l'Est, soit l'Alliance de Montréal, 6 victoires et 12 défaites. Donc maintenant, on va parler un peu d'Annie Larouche, mais juste pour vous dire qu'il y a un artiste québécois du nom de Fouki. Vous devez le connaître, l'ami Fouki. Eh bien, Fouki, il va être du côté de l'Auditorium de Verdun pour le show de la mi-temps lors du Weekend Championship. Puis, il va avoir également Fef Dobson. Je dois vous avouer que je ne connais pas là, Fef Dobson, c'est qui. Mais il va y avoir Fouki et Fef Dobson. Puis, on sait qu'au Québec, Fouki, il prend beaucoup de place, qui est connu. Et puis, que généralement, les gens, ils aiment bien sa musique. Ça va être le 9 août à l'Auditorium de Verdun à la mi-temps, là, pour ceux qui veulent aller encourager des artistes locaux et surtout une équipe locale, soit l'Alliance de Montréal. Maintenant, en parlant du loup, on retourne avec Annie Larouche, parce que Annie Larouche, elle quitte l'Alliance de Montréal l'année prochaine, et puis ils vont aller essayer de bâtir les fondations de l'équipe de Montréal dans la Super Ligue du Nord. Donc là, la Super Ligue du Nord, ça va être une ligue professionnelle de joueuses féminines de soccer. Et leur objectif, c'est clair, c'est créer un environnement attrayant pour les joueuses et qui convaincra les partisans de se joindre à l'aventure. Je peux déjà vous mentionner que, peu importe combien de matchs il y aura, je demanderai une accréditation pour la saison, pour aller couvrir le soccer féminin, en espérant que, d'ailleurs, je ne sais pas, elles joueront où. Est-ce qu'elles joueront au Stade Saputo? Ça va être peut-être difficile de remplir ça à chaque semaine. Peut-être Centre-Claude Robillard, qui est un bel environnement quand même pour du soccer. Puis c'est un beau coin aussi. Puis c'est quand même un endroit historique là, du Québec, de Montréal, le Centre-Claude Robillard. C'est là que l'Impact a joué. Ça fait longtemps qu'ils ont remporté quelques titres d'ailleurs. Donc peut-être là-bas, peut-être même, je ne sais pas, ça va être une équipe de la Rive-Sud en tout cas. Mais probablement que ça va être du côté de Montréal. Et voilà, donc elle va quitter. Annie Larouche, elle a été pressentie là, dès le début du projet visant à établir un club de la Super League dans la métropole. Puis son embauche est finalement concrétisée au mois de mai officiellement, là, mais on l'a appris un peu plus tard. Puis elle a cité Annie Larouche. « Dans mon cheminement, j'étais rendu là. On fait la place aux femmes et je suis très fière de ça », explique-t-elle. Précisons, là, quand elle va demeurer avec l'Alliance de Montréal jusqu'à la fin de la saison, puis après le tournoi final en août. Parce qu'elle ne va pas quitter avant, là. Avec l'Alliance, j'aime prendre l'image que j'ai partie le feu dans le foyer, ajoute la présidente. J'ai la bonne équipe en place. Maintenant, il faut juste lancer une couple de bûches, ou bien bon québécois, une coupe de bûches de temps en temps. La base est solide, les partisans sont incroyables, ils sont entre de bonnes mains, ils seront capables de poursuivre la mission. Puis c'est maintenant les braises d'une équipe de soccer qu'elle tissonnera de concert avec Marinette Pichon. La Marinette Pichon, qui est une joueuse, une ancienne joueuse de l'équipe nationale de France. Puis toutes les deux espèrent livrer un produit là, qui sera enflammé la foule et la ville. Donc, j'espère que ça va marcher, ce projet-là. Puis, je souhaite bonne chance à Mme Larouche. On l'a eu deux fois en entrevue ici au terrain sportif puis à Universitaire en action avant que ça change de nom. Et puis, les deux fois, elle a accepté de faire nos entrevues ici à CFAQ puis à CSM. Ils sont encore disponibles dans les balados sous Universitaire en action. Maintenant, on va parler de nos amis du sport universitaire, parce que le sport universitaire, ça recommence bientôt. La saison de football universitaire où les Carabins de l'Université de Montréal sont champions, eh bien, elle va reprendre le 23 août. Et comme on est les radios de l'Université de Montréal et de l'Université de Sherbrooke, eh bien, on va vous donner le calendrier complet des deux équipes, tout simplement. Et ça ne sera pas une surprise si je vous dis que le premier match, ça va être Montréal qui va recevoir Sherbrooke. Et le premier match, c'est dans un mois. C'est le 23 août 2024, 19h, côté du Sepsum, avec une belle expérience, un beau stade dans un beau coin, avec du stationnement quand même abordable pas loin, avec de la bonne bouffe pas chère, du spectacle, des billets pas chers. Allez voir ça, mettez ça à votre horaire, à votre agenda. Le 23 août à 19h, Montréal reçoit Sherbrooke. Ensuite de ça, je donne tous les matchs pour les Carabins de l'Université de Montréal. Le 30 août, déplacement à McGill. Le 7 septembre, déplacement à Québec. Le 14 septembre, on reçoit Concordia. On se déplace à Sherbrooke le 28 septembre. Le 4 et 12 octobre, on reçoit McGill et Laval respectivement. Et on termine la saison du côté de Concordia le 19 octobre. Et pour le variant de l'Université de Sherbrooke, avec leur nouvel entraîneur-chef, Kevin Reginbald, qui a un camp de saison à préparer, là, ils sont vraiment dedans, eh bien, ils commencent à Montréal, comme je l'ai dit, le 23. Sinon, les matchs cette saison, bien, c'est le 30 août du côté de Sherbrooke contre Concordia et le 6 septembre contre McGill à Sherbrooke. Après ça, un déplacement du côté de Québec contre le Rouge et Or le 22 septembre à 13h. Après ça, on reçoit les Carabins à 13h le 28 septembre. On se déplace coup sur coup les 5 et 11 octobre du côté de Concordia et de McGill. Et on termine la saison contre le Rougeur de l'Université Laval au stade de l'université. Donc voilà pour la saison du Rouge et Or, du Vert et Or et des Carabins de l'Université de Montréal. Puis soccer masculin, eh bien ça commence là, le 29 août avec McGill qui va recevoir les Carabins de l'Université de Montréal du côté du stade Percival Molson. Donc les études recommencent, chers auditeurs, chers auditrices. Bientôt les bancs d'école seront remplis avec des gens qui veulent aller se chercher un petit diplôme pour peut-être poursuivre leur rêve, quel qu'il soit. Donc voilà, c'était les petites actualités sportives côté. Maintenant, pour terminer l'émission, on va parler des Vermont Lake Monsters. J'ai eu l'occasion de me déplacer du côté de la plus grosse ville, d'un des plus petits états en termes de population aux États-Unis, c'est-à-dire le Vermont et Burlington, pour voir les Vermont Lake Monsters contre les New Britain Bees. Ils ont perdu par la marque de 6-2, mais l'expérience était tout simplement incroyable dans un des plus anciens stades de tout le baseball américain, mesdames et messieurs. Le stade a ouvert le terrain, en fait, des Vermont Lake Monsters, il est situé sur l'Université du Vermont, le campus de l'Université du Vermont à Burlington. Il a ouvert en 1906 et c'est un des plus anciens dans tous les États-Unis qui est encore utilisé. Et pour les gens de là-bas, vous comprendrez qu'à Burlington, au Vermont, ils n'ont pas de NFL, ils n'ont pas de Ligue nationale de hockey, ils n'ont pas de Ligue majeure, puis ils n'ont pas non plus là, de NBA. Ce qu'ils ont, ce sont leurs équipes universitaires, les Catamounts de l'Université du Vermont, le Vermont Green FC l'été, puis les Vermont Lake Monsters, puis la foule, elle était belle, les gens ont participé, les gens sont venus en grand monde, puis il y a des événements à chaque match pour pouvoir essayer d'attirer une belle petite foule du côté du Centennial Field, puis j'ai vraiment adoré mon expérience là-bas. Le Vermont Lake Monsters, c'est une équipe qui joue, qui appartenait avant aux Expos de Montréal. C'était l'équipe filiale des Expos de Montréal jusqu'à temps que les Expos quittent, bien entendu. Après ça, ça a été l'équipe filiale des Washington Nationals. Et puis maintenant, il joue dans une ligue, en résumé, là, pour résumer, pour faire court, c'est une ligue d'étudiants des universités qui jouent là-dedans. Et puis certains de ces joueurs-là, pas la majorité, éventuellement vont aller jouer dans les ligues majeures au baseball. Mais il y a certains joueurs très connus qui sont passés par cette organisation des Vermont Lake Monsters, notamment un certain Orlando Cabrera qui a joué avec les Expos de Montréal, Jordan Zimmerman et surtout Ken Griffey Jr. Puis si je me trompe pas, Ken Griffey Jr. c'était un des anciens un joueur qui a joué, je crois, avec les Mariners de Seattle. C'est un joueur qui a déjà été sur la pochette d'un jeu vidéo de baseball, si je ne m'abuse. Donc, c'est quand même un joueur très connu. Puis, quand vous allez là-bas, vous allez voir, il y a un poster, une affiche qui montre tous les joueurs qui sont passés par les Vermont Lake Monsters qui jouent ou qui ont joué du côté de la Ligue majeure de baseball. Et puis, il y en a beaucoup. C'est une équipe qui a été championne en 1996, vice-champion en 2017. Le Centennial Field a 4400 places. C'est similaire au Capital de Québec, une ville qui est beaucoup plus grande d'ailleurs, qui a un stade de 4800 places. Donc, seulement 4400 places de moins que le stade du côté de Québec. La ligue, ça s'appelle les Futures Collegiate Baseball League. C'est une ligue qui est composée de 8 équipes avec des équipes qui viennent des États du Vermont, du Connecticut, du New Hampshire et du Massachusetts. Donc, aucune équipe là, du Maine ou de l'État de New York. Tous les déplacements se font en autobus. Vous comprendrez que les budgets ne sont pas très grands. Et puis, ces joueurs-là ne sont pas rémunérés. Les joueurs qui jouent avec les Vermont Lake Monsters, ce sont des joueurs qui habitent, d'ailleurs, chez des familles souvent qui se portent volontaires pour les accueillir. C'est un peu donnant-donnant, là, tu sais. On vous accueille, vous pouvez pratiquer votre sport, vous améliorer, vous faire coacher, avoir accès à des installations, loger, nourrir, mais par contre, on vous paye pas. Puis nous, de notre côté, eh bien, ça nous donne du baseball de qualité quand même dans une belle petite ville sympathique qui est Burlington du côté du Vermont. L'équipe avec le stade le plus gros de cette ligue-là, eh bien, c'est les Norwich Sea Unicorns avec 6270 places, ce qui est quand même pas mauvais du tout. Et puis, dans cette ligue-là, eh bien, le Vermont, les Lake Monsters ont été champions en 2021. Puis sinon, l'équipe avec le plus de titres, c'est les Nashua Silver Knights avec 6 fois titre de champion. Donc malheureusement, cette équipe-là n'est plus affiliée à une équipe de baseball de la Ligue majeure, mais au moins, l'équipe est restée, puis elle donne du baseball de qualité, puis vous comprendrez qu'au baseball, il y a beaucoup de matchs. Là, cette semaine, il y a eu des matchs le 16, 17, 18, 19, 20, 21. Petit break le 22. Vous voyez, hier, il y a eu 2 matchs au Centennial Field contre les Road Warriors. Ils ont gagné 7 à 2. Puis, ils ont gagné 3 à 2 après ça. C'est un programme double. D'ailleurs, Road Warriors, c'est un beau petit logo. Là, c'est un autobus sorte mauve et blanc. Puis après ça, ils ont une autre équipe qui s'appelle les Westfield Starfires. Leur logo, ça semble être un avion avec une balle de baseball. C'est quand même assez étonnant parce qu'il n'y a aucune équipe qui prend l'avion dans cette ligue-là. Donc, bref, I guess ça fait pas trop de différence. Donc, voilà pour les Vermont Lake Monsters. Le prochain match, pour ceux qui veulent aller encourager ça, là, eh bien, à domicile, ça va être le... on va vous dire ça tout de suite. Le 24, 25, 26 juillet, il y a des matchs contre les Norwich Sea Unicorns. Et puis, il y a le match des étoiles le 23 juillet au Dodd Stadium. Voilà. Vous comprendrez que pour un fan de sport comme moi et comme beaucoup de personnes, ces équipes-là, pour certaines personnes, c'est un peu plate. Parce qu'ils vont dire, ben, il n'y a pas beaucoup de fans, c'est pas les meilleurs joueurs au monde, blablabla. Mais je peux vous dire que pour avoir vu beaucoup de sports de toutes catégories confondues, c'est un plaisir voir des petits événements comme ça. Parce que premièrement, ça coûte moins cher, le billet du stade pour l'entrée. Généralement, plus l'événement est petit, plus c'est très facile de se trouver du stationnement. La bouffe est généralement meilleure et moins chère. Et puis surtout, le point essentiel, c'est que tu es beaucoup plus près de l'action. Et puis, l'ambiance est beaucoup plus familiale. Donc, vous me donnez le choix entre aller voir, je ne sais pas, les Voltigeurs de Drummondville ou le Canadien de Montréal. Je prends les voltigeurs de Drummondville parce que je suis un fan de sport. Et je ne suis pas nécessairement un fan d'athlètes exceptionnels puisque je considère que les joueurs qui participent dans des sports, quels qu'ils soient, dans lesquels ils sont rémunérés ou par exemple des sports d'étudiants au cégep ou à l'université, ils sont bons dans leur sport et donc c'est plaisant à voir. Donc voilà. Maintenant, pour les billets, ça coûte combien? Eh bien, ça coûte pas cher pantoute. Les billets, là, les billets de saison, les moins chers, c'est pour un adulte, c'est 200$ pour à peu près, je sais pas combien de matchs là. Il doit en avoir au moins 20-30. Puis sinon, pour un billet régulier, c'est 10$, 12$. Et pour un billet vraiment très bien placé, là, c'est à peu près une quinzaine de dollars américains. Donc, ça vaut vraiment la peine. Allez encourager ça. Faites-vous un petit road trip du côté du Vermont pour aller voir les Lake Monsters. Puis, vous allez adorer. Donc, voilà, c'est dit, c'est fait. Et parlant du Vermont Green et du Vermont, ils ont l'équipe de soccer, le Vermont Green FC. Et puis, cette équipe-là, elle a été jusqu'en finale de sa division. Et puis la la finale totale, c'était contre Seacoast United. Et ça se passait au moment où est-ce que cette émission était préenregistrée, donc je n'ai pas le résultat final. Mais peut-être qu'il y aura d'autres matchs du côté du Vermont Green FC. Donc voilà, chers auditeurs, chers auditrices, merci beaucoup d'avoir été là au terrain sportif. C'était Wissam Bensta sur les ondes de CSM et de CFAC. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis la semaine prochaine, juste pour terminer l'émission, j'ai oublié de vous mentionner ça, on va parler d'un certain boxeur québécois. Hein, je le dis avec l'intonation québécois. Monsieur Jean Pascal, qui va être de retour contre Monsieur Terry Ozias. Et ça va se passer plus tard, là, durant l'automne. Mais il y avait une conférence de presse là, mardi. En fait, il y a une conférence de presse demain à 11h du côté du restaurant Houston à Brossard. Mais malheureusement, je ne pourrai y être puisque je travaille. Mais le combat se tiendra le samedi 21 septembre du côté du Colisée de Laval. Et c'est une série combat qui est présentée par New Era. Donc, Jean Pascal n'a pas dit son dernier mot. Et il se battra contre Terry Ozias. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Au revoir.